C'étaient là parmi d'autres les prodiges sculptés sur ce portail. Mais aucun d'eux ne suscitait l'inquiétude, car ils ne voulaient pas signifier les maux de cette terre ou les tourments de l'enfer. Ils étaient bien au contraire les témoins du fait que la bonne nouvelle avait atteint toute la terre connue et s'apprêtait à s'étendre à l'inconnu. Raison pourquoi le portail était joyeuse promesse de concorde, d'unité réalisée dans la parole de Christ, de splendide œcuménicité. Heureux présage, me dis-je, pour la rencontre qui se déroulera au-delà de ce seuil, où des hommes devenus ennemis les uns des autres à cause d'interprétations opposées de l'Évangile se retrouveront peut-être pour vider aujourd'hui leur querelle. Et je me dis que j'étais un bien pauvre pécheur à m'affliger sur mon cas personnel, tandis qu'allaient se produire des événements d'une importance sans pareille pour l'histoire de la chrétienté. Je confrontais la petitesse de mes peines à la grandiose promesse de paix et de sérénité scellée dans la pierre du tympan. Je demandais pardon à Dieu pour ma fragilité, et, rasséréné, je franchis le seuil. À peine entré, je vis les membres des deux légations au complet qui se faisaient face sur une rangée de sièges disposés en hémicycle, les deux fronts séparés par une table où avaient pris place l'abbé et le cardinal Bertrand. Guillaume, que je suivis pour prendre des notes, me plaça du côté des minorites, où se trouvaient Michel avec les siens et d'autres franciscains de la cour d'Avignon. Car la rencontre ne devait pas apparaître comme un duel entre Italiens et Français, mais comme une dispute entre les partisans de la règle franciscaine et leurs critiques, tous unis par une sainte et catholique fidélité à la cour pontificale. Avec Michel de Cézanne se trouvaient frère Arnaud d'Aquitaine, frère Hugues de Newcastle et frère Guillaume Olnwick, qui avaient pris part au chapitre de Pérouse, et puis l'évêque de Caffa et Béranger Taluni, Bonagrazia de Bergame et d'autres minorites de la cour avignonnaise. Du côté opposé étaient assis Laurent des Coalcon, bachelier d'Avignon, l'évêque de Padoue et Jean Danneau, docteur en théologie à Paris. À côté de Bernard Guy, silencieux et pensif, il y avait le dominicain Jean de Beaune qu'en Italie on appelait Giovanni d'Albena. Ce dernier, me dit Guillaume, avait été des années auparavant inquisiteur à Narbonne, où il avait fait le procès de nombreux béguins et bougres. Mais comme il avait taxé l'hérétique précisément une proposition concernant la pauvreté de Christ, contre lui s'était dressé Béranger Taluni, lecteur dans le couvent de cette ville, qui en appela au pape. À l'époque, Jean avait encore des idées peu claires sur cette matière, et il les avait convoqués tous les deux à la cour pour discuter sans qu'on aboutît à une conclusion. Tant et si bien que, peu de temps après, les franciscains avaient pris la position dont j'ai déjà parlé au chapitre de Pérouse. Enfin, du côté des Avignonnais, il y en avait d'autres encore, parmi lesquels l'évêque d'Alboréa. La séance fut ouverte par Abbon, qui jugea opportun de résumer les faits les plus récents. Il rappela qu'en l'an du Seigneur 1322, le chapitre général des frères mineurs s'étant réuni à Pérouse sous la conduite de Michel de Cézanne, avait établi après mûre et diligente délibération que Christ, pour donner un exemple de vie parfaite, et les apôtres pour se conformer à son enseignement, n'avaient jamais possédé en commun la moindre chose, aussi bien à titre de propriété que de seigneurie, et que cette vérité était matière de foi saine et catholique, comme on le déduisait de différents passages des livres canoniques. Le renoncement à la propriété de toute chose s'avérait donc méritoire et saint, et à cette règle de sainteté s'étaient tenus les premiers fondateurs de l'Église militante. À cette vérité s'était tenu en 1312 le Concile de Vienne, et le pape Jean lui-même en 1317, dans la Constitution sur l'état des frères mineurs, qui commence « Quorumdam exigit », avait commenté les délibérés de ce concile comme saintement composés, lucides, solides et mûrs. En conséquence de quoi, le chapitre de Pérouse, jugeant que ce que par sainte doctrine le siège apostolique avait toujours approuvé, se devait tenir toujours pour accepter et qu'on ne devait d'aucune façon s'en écarter, s'était contenté de sceller à nouveau une telle décision conciliaire par le paraphe de maîtres en sainte théologie comme frère Guillaume d'Angleterre, frère Henri d'Allemagne, frère Arnaud d'Aquitaine, provinciaux et ministres. Ainsi que par le sceau de frère Nicolas, ministre de France, frère Guillaume Bloch, bachelier, du ministre général et des quatre ministres provinciaux, frère Thomas de Bologne, frère Pierre de la province de Saint-François, frère Fernand de Castel et frère Simon de Turoni. Cependant, ajouta Abbon, l'année suivante, le pape promulguait la décrétale ad conditorem canonum contre laquelle faisait appel frère Bonagrazia de Bergame. la jugeant contraire aux intérêts de son ordre. Le pape avait alors décloué la décrétale des portes de la cathédrale d'Avignon, où elle avait été clouée, et il l'avait amendée sur plusieurs points. Mais en réalité, il l'avait rendue encore plus âpre. Preuve en était que, comme conséquence immédiate, frère Bonagradia avait été gardé une année en prison. Et on ne pouvait avoir aucun doute sur la sévérité du souverain pontife, car la même année, il promulguait la désormais célèbre « Cum inter non nullos », où se voyaient définitivement condamnées les thèses du chapitre de Pérouse.